président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Bonjour. Aujourd'hui, Patrick et moi recevons un historien, et pas n'importe lequel, Victor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Alors Victor, présente-toi, s'il te plaît, à nos auditeurs, et après on présentera ton livre qui a un titre révolutionnaire. C'est rien moins que « C'est le peuple qui commande, la révolution des éveillés, 1974-1976 ».
Me présenter, donc je suis historien. Mm-hmm. Né en France, de parents portugais. J'ai été pendant longtemps maître de conférences à Pau, dans le sud de la France. Et là, depuis quelques années, je suis chercheur à l'Université Nouvelle de Lisbonne, où je vais dans quelques heures. Oui. Et donc j'ai travaillé, ma thèse était sur comment la dictature de Salazar, avant 1974, a empêché les Portugais de venir librement en France. Et donc les 900 000 Portugais qui sont venus en France dans les années 60-70... pour plus de la moitié, ont dû venir illégalement, parce qu'on leur donnait pas de passeport. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les archives de la police politique, la PID, qui surveillait les Portugais qui étaient en France, et qui faisait que beaucoup de Portugais qui étaient en France avaient peur de syndiquer, de faire de la politique, parce qu'ils craignaient les représailles sur leur famille. Et donc, l'année dernière, j'ai publié cet ouvrage sur la révolution des œillets.
Alors, cet ouvrage, j'en ai pris connaissance dans un journal, où j'aurais pas cru qu'on ferait l'apologie d'un livre pareil, mais comme quoi, c'est Alternative Économique qui a consacré un papier à ton livre, et ça m'a donné envie de le commander. Donc je remercie ton attaché de presse, Antoine Bertrand, qui a efficacement m'a envoyé l'ouvrage, et nous avons pris attache pour une émission aujourd'hui, un peu plus courte que d'habitude, mais nous allons parler de la révolution des œillets. Alors, tu commences par, dans l'introduction, tu commences par rappeler que depuis 1975, le 25 avril est jour férié au Portugal, le jour des capitaines d'avril.
Donc la révolution des œillets a eu lieu le 25 avril 1974. Mmh. En quelques heures, en 18 heures, une dictature qui durait depuis 48 ans est tombée comme un château de cartes. La révolution a fait 5 morts, mais dans la soirée, la dictature a été tombée alors que le coup d'État commence au milieu de la nuit. Et donc, au Portugal, c'est la date la plus importante probablement du XXe siècle, voire pour moi d'une grande partie de l'histoire du Portugal. Et c'est une date, un jour férié à plusieurs titres. Donc, d'abord pour le 25 avril 1974, mais le 25 avril 1975, un an après, il y a les premières élections constituantes, avec un chiffre que je rappelle, qui est que 92% de participation, alors que la grande majorité des Portugais n'avaient jamais voté. Parce que sous la dictature, il y avait certes des élections, mais qui étaient bidonnées, il y avait des fraudes, et une grande partie de la population ne pouvait pas voter. Et le 25 avril 1976, c'est l'entrée en vigueur de la Constitution, donc de 1976, qui est une constitution à l'époque extrêmement progressiste, qui dit notamment que le Portugal est un pays en transition vers le socialisme, et que les acquis de la révolution, des luttes de la révolution, notamment les nationalisations, la réforme agraire, donc c'est-à-dire qu'on est les paysans s'organisent pour travailler eux-mêmes la terre et pour recevoir les bénéfices, ou ce qu'on appelle le pouvoir populaire, sont gravés dans le marbre. Bon, depuis, tout ça a été retiré de la Constitution, mais donc c'est 25 avril, c'est trois dates importantes qui ont radicalement transformé le Portugal.
Alors, les 3D, comme tu le dis si bien en page, tu les explicites en page 148 de ton ouvrage, démocratie, développement, décolonisation, ça a été la promesse du MFA. Alors, quels sont ces capitaines et qu'est-ce que c'est que le MFA ?
Donc, le MFA, c'est le mouvement des forces armées, qui est un mouvement qui naît en mars 1974, mais qui fait suite à ce qu'on appelle le mouvement des capitaines. Mouvement des capitaines qui naît en septembre 1973. Et c'est un mouvement au sein de l'armée de jeunes sous-officiers. Je dis jeunes parce que la plupart ont 30 ans. Ils sont au début de leur carrière militaire. Et c'est des militaires de carrière. C'est des gens qui ont fait l'académie militaire pour devenir des militaires. Et qui, en fait, les 10 années précédentes, ont dû combattre dans les guerres dites coloniales, ou les guerres d'indépendance, ou les guerres de libération nationale, qui ont eu lieu en Angola à partir de 1961, en Guinée-Bissau à partir de 1963, et au Mozambique à partir de 1964. Et donc ces différents officiers, certains étaient déjà politisés quand ils rentrent dans l'armée, certains se politisent au cours soit de leur service militaire, soit de leur engagement militaire. Et en 73, un certain nombre d'entre eux considèrent que ces guerres qui durent depuis plus de 10 ans, qui engloutissent 40% du budget portugais, qui ils se rendent compte que c'est des guerres qui sont immorales, illégitimes. Le Portugal est le dernier pays à considérer qu'il peut garder des colonies, alors que la France a dû admettre, le dernier cas c'est 62... En Algérie, que les États-Unis sont en train de s'embourber au Vietnam, que le Portugal n'a ni les moyens, ni la légitimité de continuer sa présence et sa présence violente en Afrique, et que donc une partie de ces officiers disent qu'il faut trouver une solution à ces guerres. La solution à ces guerres n'est pas militaire, c'est des guerres qui peuvent continuer sans fin, ou des guerres qu'on va peut-être finir par perdre, ce qui était le cas en Guinée-Bissau.
Tout à fait. Qui était d'abord à Gao.
Exactement, mais dans différentes zones
du globe.
Agua.
Agua, pardon.
En 61. Et après, il y a un autre Gao, c'est pour ça que je. Mm-hmm. Mais en Guinée-Bissau. Et qui disent, ok, il faut trouver une solution politique. Sauf que la dictature ne veut trouver aucune solution politique. Mm-hmm. Notamment en 72, le dictateur Marcelo Caetano refuse de négocier avec Amilcar Cabral, qui est le leader du PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Et donc une partie des militaires disent, si on veut mettre fin aux guerres coloniales, il faut mettre fin à la dictature. Et donc c'est à partir de septembre 73 qu'il y a des réunions qui au début sont corporatistes, c'est pour défendre un peu leurs intérêts, mais qui très vite se politisent et se radicalisent. Et donc, à partir de mars 74, ce mouvement des forces armées décide d'organiser un coup d'État. Coup d'État qui est une réussite. Le 25 avril 1974.
Alors, ils partent du principe que comme c'est le pouvoir, la dictature a été mise par l'armée, c'est à l'armée de destituer cette dictature.
Tout à fait. En fait, la dictature, il y a un coup d'État le 28 mai 1926 pour mettre fin au gouvernement républicain et particulièrement d'un parti qui est le parti démocratique. Et ces militaires font un coup d'État le 28 mai 1926, mais ça ne va pas très bien ce qu'ils veulent faire après. Ces différents militaires qui ont différentes sensibilités. Certains regardent plutôt du côté du fascisme, d'autres regardent plutôt du côté de l'Espagne de Primo de Rivera, qui est un régime corporatiste. D'autres veulent une république un peu plus musclée. Et un des grands problèmes du Portugal, c'est les comptes publics. Il y a des déficits, la situation économique est mauvaise. Et ces militaires vont finir par faire appel à un professeur d'université de Coimbra, qui est la ville universitaire par excellence au Portugal, qui s'appelle Antonio de Oliveira Salazar, qui est un prof d'économie politique, et qui va être nommé ministre des Finances, et pour la faire rapide, va réussir à stabiliser les comptes publics, à apparaître comme le magicien des finances, et va s'imposer en 1932 comme président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, et va rester au pouvoir de 1932 à 1968. Mmh. Et Salazar arrive au pouvoir grâce aux militaires, il n'est pas du tout militaire lui-même, et il va toujours veiller à soutenir l'armée, pour que l'armée le soutienne. Et donc, Salazar va toujours avoir peur d'un coup d'État, et il va y avoir différentes tentatives de coup d'État qu'il va toujours réussir à neutraliser. Mais donc, cette armée, en grande partie, va être le grand soutien de la dictature. C'est notamment dans l'armée qu'on va piocher notamment beaucoup de ministres. C'est dans l'armée qu'on va piocher les dirigeants de la police politique, la PIDE, et c'est l'armée qui fait la guerre coloniale. Mais au sein de cette armée, il va y avoir une scission. L'EMFA, ça ne va pas être toute l'armée, hein, ça va être une petite partie de l'armée, mais la partie notamment jeune, qui vont compter...
Proche du peuple.
Exactement.
De l'extraction populaire.
Exactement. Une des choses qui a changé dans les années 60-70, c'est que de plus en plus, 60 surtout, de plus en plus d'officiers viennent des classes moyennes et viennent de moins en moins, sûrement des moins enfants de militaires, avec une vision de caste élitiste, parce que de moins en moins de gens veulent faire l'armée, parce que rentrer dans l'armée, ça veut dire faire la guerre coloniale, donc de moins en moins de personnes veulent faire, et qui effectivement ont été en Angola, en Guinée, au Mozambique, proches de leurs soldats, qui viennent du peuple, et qui à un moment vont se dire, il faut arrêter ce massacre à la fois des populations africaines, mais aussi de notre propre peuple qu'on envoie, alors si ce n'est à la mort, à des blessures, ou ce qui va jusqu'à nos jours marquer une partie de la population, c'est du stress post-traumatique. Voilà. Vous avez beaucoup, jusqu'à nos jours, de Portugais qui ont vécu ces guerres coloniales et qui souffrent encore dans leur chair et dans leur esprit le fait d'avoir combattu en Guinée, en Angola, avoir vu des gens mourir, d'avoir tué des gens, d'avoir eu peur. Et donc, ils veulent mettre fin à cela.
D'accord. Alors, le premier triptyque, le premier D. Parce que le MFA, lorsqu'il fait la révolution des œillets, il promet au peuple portugais 3 D. Démocratie, développement et décolonisation. Démocratie. Commençons par la démocratie.
La démocratie, c'est ce qu'ils font déjà le 25 avril 1974, c'est mettre fin à la dictature. Donc, le premier objectif du 25 avril 1974, c'est emprisonner le Premier ministre.
Voilà.
D'emprisonner. Donc, le Premier ministre, c'était le plus important, le reste, à la limite, venait avec. Et donc, Marcelo Caetano, qui, le 25 avril 1974, va se réfugier au siège de la gendarmerie, en plein cœur de Lisbonne. À 18h, il va accepter d'abdiquer. Et le lendemain, on le met dans un avion, on l'envoie à Madère, puis il part au Brésil. Et la dictature tombe, toutes les institutions de la dictature tombent le 25 avril. Et ensuite, ça va être un peu plus compliqué que ce que pensaient les militaires. Les militaires, une de leurs promesses le soir du 25 avril est de dire on va démanteler la dictature et notamment la police politique. Police politique qui va provoquer la mort de 4 personnes le 25 avril. Et on promet d'organiser des élections libres et de convoquer des élections constituantes. Et on pensait qu'on allait avoir une transition relativement aisée, simple, d'une dictature à une démocratie, disons, libérale. Sauf qu'une chose que les militaires n'ont pas du tout prévue, et a d'ailleurs lieu le 25 avril même, c'est que quand les militaires, au cours de la nuit, prennent différentes positions stratégiques, et notamment la radio, la télévision, quand ils prennent le contrôle d'une des radios, ils demandent à la population de rester chez elle. En leur disant, il y a une opération militaire en cours, restez chez vous, dans le plus grand des calmes, et notamment pour pas que la population civile
soit prise en étau,
qu'il y ait des balles perdues, etc. Et ce qui va se passer dans la matinée et dans l'après-midi du 25 avril, c'est qu'une partie de la population va sortir dans la rue pour soutenir les insurgés.
Elle va les nourrir, elle va les aider, elle va leur donner des œillets, les fameux œillets.
On leur donne des œillets, etc. On leur donne à manger, on leur donne à boire, on les aide. Et ça va à la fois moraliser, donner encore un surplus de morale et d'enthousiasme aux insurgés. Et ça va démoraliser les différentes troupes qui sont envoyées pour arrêter le coup d'État, qui vont se dire,
on tire sur notre population.
Et en fait, ils ne vont pas tirer au final. Sauf la police politique.
Lapides, qui fera les 5 morts.
Exactement, les 4 morts. Il y en a un des morts qui est un des agents même de Lapides. Mm-hmm. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que dès le 25 avril, la population n'est pas un acteur passif, et au contraire, un acteur extrêmement participatif. Et le 25 avril 1974 va ouvrir tout un mouvement de participation populaire. Dans les heures qui suivent le 25 avril, des gens qui ont des bidonvilles vont occuper des logements vides. Dès le 1er mai n'était pas du tout un jour férié au Portugal. Le 1er mai devient jour férié, jour des travailleurs, et vous avez, on dit, 1 million de personnes qui défilent dans les rues pour soutenir. Et dès le 2 mai, il y a un mouvement de grève partout au Portugal, à Lisbonne d'abord, puis dans d'autres villes. Et donc la population va participer activement à cette révolution, va un peu dépasser le premier président, Spinola, qui est celui qui prend le pouvoir et qui est relativement conservateur. Et donc, ce passage à la démocratie va être un peu plus, j'allais dire, chahuté, mais dans le bon sens du terme. Bon enfant, mais il y a eu des mouvements sociaux assez durs.
Oui, parce qu'ils voulaient 6000 escudos de salaire minimum. Ils voulaient 40 heures.
Ils voulaient plus les patrons, de certains patrons.
Et il y en a 1000 à peu près. Donc il y a des patrons qui vont être poussés à la démission.
Exactement, qui vont être poussés. Il y aura des expériences d'autogestion, parce que les patrons soit sont partis, soit qu'on les a foutus à la porte.
Voilà.
Soit de contrôle ouvrier. Et donc il y aura. Exactement. Et il faudra restituer ça dans un autre cadre, qui est quand le 26 avril 1974 a lieu, au petit matin, certains pensent que c'est un coup de l'extrême droite.
Voilà.
Et se disent, c'est l'extrême droite qui veut durcir la dictature. Et tout le monde a en tête des événements qui ont eu lieu quelques semaines auparavant, c'est le Chili.
Tout à fait.
Avec le coup d'État durant septembre 1973. Et le Chili va être extrêmement présent dans la façon dont les Portugais et les partis politiques et une partie des militaires de gauche vont concevoir. Ils vont avoir extrêmement peur que les États-Unis
n'interviennent
avec le patronat, n'interviennent et qu'il y ait un retour en arrière. Et donc, il va y avoir une grande mobilisation et une grande vigilance des partis de gauche, ce qui va notamment provoquer, il y a Spinola qui est premier président, qui démissionne le 30 septembre 1974, parce qu'il est dépassé par les événements, par les mobilisations populaires, qui va craindre que le Parti communiste prenne le pouvoir et qui le 11 mars 1975 tente un coup d'État.
Tout à fait. Il fait arrêter le capitaine des capitaines.
Il essaye de prendre une base qui est une des bases militaires la plus radicale. Et au lieu de freiner la révolution, il va l'accélérer.
Tout à fait.
Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le processus vers une démocratie libérale, en fait, prend quasiment 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est dans les manuels, notamment la révolution des œillets, très rapidement enseignée dans un des parcours de première, pour ceux qui font de l'histoire et de la science politique. Et en fait, C'est résumé, évidemment, en deux pages, parce que dans un programme, on parle de beaucoup de choses. Mais ça parle de la dictature, ça parle du 25 avril, et ça parle de 76, de la Constitution. Or, ce qui est fascinant, et ce qui est...
Et ton livre le montre très bien.
C'est qu'entre les deux, il se passe vraiment beaucoup de choses.
Énormément.
Et notamment un pays en révolution.
Oui. Alors, toutes les révolutions ne vont pas à leur terme. Je pense aux femmes, aux homosexuels et tout. Oui. Mais la société se prend en main et elle change radicalement. C'est-à-dire que même les militaires sont étonnés parce qu'ils avaient l'habitude de voir un peuple passif, apeuré. Et là, ils découvrent que le peuple peut se prendre en main. Par exemple, les occupations d'habitation, ils ont fait des comités de résidents. Et ils ont choisi ceux qui étaient les plus nécessiteux d'entre eux pour occuper ces résidences.
Voilà. Tout à fait. L'image que beaucoup de militaires, ou même à l'étranger, on avait du Portugal, et que parfois on a toujours cette idée, notamment le fado, la fatalité, ce pays où le noir est couleur, c'était une publicité pour le Porto. Cette idée que si la dictature a duré pendant 48 ans, c'est que le peuple est apathique. Et que le peuple a besoin d'un bon père de famille, Salazar, qui reste quasiment au pouvoir pendant 36 ans. Les militaires, quand ils organisent le coup d'État, Othello, c'est la Valle Calvario, qui va être l'organisateur du coup d'État, il ne prend pas du tout en compte une éventuelle participation de la population. Pour lui, la population, on lui dit de rester à la maison, la population va rester à la maison. Et dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, donc il y a ces mouvements populaires spontanés, très largement. Au début, le Parti communiste, qui va rentrer dans le premier gouvernement provisoire, il va plutôt dire de calmer les mouvements sociaux.
Parce il va être dépassé par la base.
Il est dépassé par la base. Il a aussi cette idée du Chili. Si
on va trop vite.
Ça va trop vite. Il y a un mouvement révolutionnaire. Ça va faire peur au patronat. Le patronat, il est encore là, le 26 avril 1974. Les Américains vont intervenir. Donc, il essaie plutôt de calmer le mouvement. Mais à la base, et notamment, il y a tout un ensemble de mouvements d'extrême gauche, maoïstes, trotskistes, anarchistes.
Sans qui vont les étudiants.
Exactement, qui vont soutenir ces mouvements à la base. Et donc, très rapidement, de façon relativement spontanée, il y a des commissions de résidents dans les quartiers populaires qui vont dire, on occupe ce logement vide, parce qu'il est vide, ou parce qu'il appartenait à la police politique, ou parce qu'il appartenait à telle ou telle personne. Et on va y loger des gens qui vivent dans des bidonvilles. Lisbonne était plein de bidonvilles, il y avait les gens étaient très mal logés. Ou ici, on va créer une crèche pour que les femmes puissent aller travailler et qu'on s'occupe de les enfants. Et donc, il y a un mouvement spontané, ce qu'on a très très vite appelé le pouvoir populaire.
Tout à fait.
Et qui a pris par surprise les militaires, mais aussi une partie du Parti communiste qui ne s'attendait pas à ça et qui voulait quelque chose d'un peu plus cadré.
Patrick, tu voulais dire
j'ai une question, moi, sur qu'est-ce qui explique, en fait, l'existence de cette culture politique, sociale, dans une dictature, en fait, comment? Parce que tu parles d'émergence spontanée, mais ça veut dire quand même, il faut avoir une culture, politique minimale, sociale. Bon, le Parti communiste en a parlé un petit peu, mais comment ça a pu, qu'est-ce qui a entretenu, en fait, cette culture politique et sociale au Portugal avant les années 60, jusqu'aux années 60, début des années 70?
Moi, une des choses qui m'a... Un des moments importants du 25 avril, c'est qu'une des promesses des militaires est que tous les prisonniers politiques soient libérés. Et les prisonniers politiques ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 avril. Et il y a une image qu'on peut pouvoir regarder sur YouTube ou sur le site de la RTP. Dans la nuit du 26 au 27 avril, les prisonniers politiques sortent et quittent la prison. Et on voit, il y a un plan où il y a plusieurs prisonniers politiques qui prennent une route pour quitter la prison. Et les gens crient « Le peuple uni, ou pauvre uni, tout ça marche à la vincise », qui est « Le peuple uni ne sera jamais vaincu », qui est la reprise d'un des slogans d'unité populaire au Chili. Ce que je veux dire par là, c'est que le Portugal n'était pas complètement enfermé. Pourquoi il n'était pas enfermé? Parce que d'une part, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, il y avait eu dans les années précédentes, dans les 15 années précédentes, 1,4 million de Portugais qui avaient émigré, surtout en France, mais aussi au Luxembourg, en Suisse. Et évidemment que ces Portugais qui étaient en France n'étaient pas vraiment ni anarchistes ni communistes, même s'il y avait des exilés qui étaient ici, qui avaient essayé de politiser leurs compatriotes en allant dans les bidonvilles, en tractant la sortie de Renault Billancourt, etc. Mais plus largement, il y avait une diffusion d'idées qui rentraient au Portugal par ce biais-là. D'autre part, il y a au Portugal, donc toute l'action de mouvement, il y a une radicalisation de la jeunesse, notamment des étudiants, au cours des années 60-70, à partir de 62. Des actions, des multitudes de partis, donc le Parti communiste, certes, mais des mouvements maoïstes qui cherchent à politiser la population, les classes populaires. Et il y avait aussi, donc Salazar est au pouvoir jusqu'en 68. En 68, il a un problème de santé. Il est remplacé par Marcelo Caetano, qui est lui aussi un professeur universitaire et qui continue la même politique. Mais il y a eu notamment en 69 tout un mouvement de grève. Donc en fait, le pays, il n'était pas du tout figé, en aucun cas. Et il y avait, on connaissait ce qui se faisait à l'étranger, notamment par le biais de l'émigration, par le biais de journaux qui rentraient, par la presse clandestine. Et effectivement, après le 25 74, pour parler comme un politiste, il y a une partie de la population comprend qu'il y a une opportunité politique. Ça veut dire que l'État
unique.
Unique. C'est-à-dire que l'État ne fonctionne quasiment plus. Ce qui va très très vite se passer, c'est que la police n'intervient plus.
Voilà.
Parce que la police est considérée comme fasciste. Et en fait, la police ne va plus intervenir. Et à un moment, pour pallier cela, ce que Spinola va faire, c'est qu'il va créer une sorte de police militaire. Vu que la gendarmerie et la police nationale n'osent plus aller dans la rue s'il y a une grève ou une manif, ils osent plus trop.
Ou alors, ils pactisent carrément avec les grévistes.
Mais alors, pas trop la police. Mais ce qui va en fait, la police militaire, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on crée une police militaire et en fait, ce qu'on va mettre... Après, on peut considérer ça ironique, mais au début, on ne savait pas. Spinola, quand il crée cette police militaire, le COPCON, il va mettre Otello Saraval Carvalho. Donc, Otello Saraval Carvalho, ça, c'est lui qui a organisé le coup d'État du 25 avril. Et que Spinola pense être un de ses proches parce qu'il a travaillé sous ses ordres en Guinée, quand Spinola était gouverneur de la Guinée. Et en fait, Otello va devenir très, très vite le chantre du pouvoir populaire. Et grosso modo, quand il y a une grève ou une occupation de terres, d'usines, la police militaire arrive. En fait, ils disent, mais en fait, les ouvriers, ils ont raison. Parce qu'ils se faisaient exploiter, parce que les salaires étaient très bas. Et donc, en fait, une grande partie des travailleurs mobilisés vont se rendre compte que c'est le moment ou jamais, parce qu'en fait, il n'y a plus l'État répressif. Ou quasiment plus l'État répressif. Et donc, c'est notamment pour ça qu'en 74 et surtout fin 75, beaucoup de paysans de la région la plus pauvre et la plus inégale, qui est la Lentejo, le Ribatejo, qui est des grandes exploitations rurales où un propriétaire a des hectares et des hectares de terre et vit un peu comme un maître féodal avec ses journaliers qui dépendent de lui, eh bien, les paysans vont s'organiser pour occuper les terres avec le soutien le plus souvent de la police militaire.
Tout à fait. Donc, on peut dire que vraiment, les gens ont compris qu'ils avaient une chance unique et ils l'ont saisie.
Tout à fait.
Et ça, tu le montres très bien dans ton livre. Et c'est réjouissant. C'est vraiment le peuple qui gouverne. Donc, c'est le titre d'une chanson de José Alfonso.
José Alfonso.
José Alfonso, pardon. Donc, on va demander à Jean-Michel si on peut faire une pause musicale avec la première chanson que tu as choisie, Victor.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira já não sabia a idade.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes avec Victor Pereira pour son livre sur les 50 ans de la révolution des œillets, c'est le peuple qui commande, aux éditions du Détour. Alors Victor, pourquoi cette chanson ?
Pour au moins deux raisons. La première, pour trois raisons. La première, c'est que c'est une magnifique chanson, rien que ça. La deuxième, c'est parce que à un moment, vous entendez des graviers. C'est des graviers qui sont français, qui sont du produit national, qui sont des graviers du Vexin, du château d'Hérouville, qui est un studio d'enregistrement où il y a eu des gens pas très connus qui ont enregistré comme Pink Floyd ou David Bowie ou Elton John et donc Zac Afonso en 71. Et plus sérieusement, le soir du 25 avril, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a et de transmission qu'on a maintenant. Et Othello, donc celui qui organise le coup d'État, a l'idée de passer des chansons à la radio qui serait un code pour que les différentes casernes qui vont participer au coup d'État sachent que si à telle heure cette chanson passe, ça veut dire qu'il faut avancer et qu'il faut suivre le plan, et chacun a eu dans les jours précédents, les heures précédentes, leurs objectifs, leurs missions. Et en fait, il y a deux chansons qui passent, une à 22h55, qui est une chanson d'amour, qui était la chanson portugaise pour l'Eurovision, qui a eu moins de 10 points, et après, à minuit 20, il y a cette chanson, qui est déjà plus politique, largement, parce que dedans, il y a « C'est le peuple qui commande » et « O povo quem mais ordena » qui est choisi, et donc à minuit 20, c'est, voilà, la dictature, l'opération est en cours, l'opération virage historique, voilà. Et donc sortez de vos casernes et accomplissez vos différentes missions. Et donc c'est en référence à cette chanson qui, pour les Portugais, est la chanson liée au 25 avril et à la Révolution. Et notamment, si je peux me permettre une sorte d'anachronisme par rapport au livre, dans les années 2010, quand il y a une grande crise économique au Portugal, avec l'austérité, avec l'intervention de ce qu'on appelle la Troïka, et qu'il y a un gouvernement de droite, qui avec des mesures d'austérité, ce que, notamment dans les manifestations ou dans les interventions pour embêter les ministres, ce que chantaient les manifestants, c'est cette chanson.
Oui.
Que, voilà, qui rappelle les valeurs de la démocratie et aussi de la démocratie sociale. Plus largement, parce que ça parle de Grândola, un village de l'Alentejo, qui est la région la plus la plus inégale, mais aussi avec le plus de mobilisation rurale, et où il parle d'un peuple où tout le monde est frère, où c'est le peuple qui commande. Donc évidemment, il y avait un sous-texte que bizarrement la censure n'avait pas comprise. C'est pour ça qu'elle pouvait passer à la radio, à un sous-texte très politique.
Alors, nous avons fait démocratie, développement justement. Tu fais bien de parler de la région des hérités. Le Portugal, qu'est-ce que c'est le 25 avril ? C'est une région très inégale économiquement.
D'une part, le Portugal, c'est un pays en guerre, avec les guerres coloniales, sur qui font que tous les jeunes hommes, à partir de 68, font 4 ans de service militaire, et où 40% du budget est englouti dans la guerre coloniale, et provoquant des morts, des blessés, des destructions. Et c'est le pays le plus pauvre d'Europe occidentale. Mmh. Et c'est un pays que quasiment plus de 10% de la population a quitté les 15 années précédentes. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, entre 1957 et 1974, 900 000 Portugais viennent en France pour fuir la misère, pour fuir l'oppression, pour fuir les guerres coloniales, pour ne pas aller se battre. Et notamment quand ils viennent en France, d'une part, souvent, donc, on ne leur donne pas de passeport, donc ils doivent rentrer illégalement en France. Donc ils doivent quitter le Portugal illégalement, traverser une partie de l'Espagne illégalement, rentrer en France illégalement. Après, bon, en fonction des politiques étatiques, les choses vont un peu évoluer. Et ces Portugais, quand ils arrivent, personne ne les attend, il n'y a pas de logement pour eux. Ils sont d'ailleurs venus pour construire des logements. Et donc, ils vivent en bidonville, notamment le plus connu est celui de Champigny-sur-Marne, où il y a eu jusqu'à 14 000 personnes. Et donc, le Portugal est le pays le plus pauvre, un pays extrêmement inégal, avec une petite élite extrêmement riche, notamment autour de grands groupes économiques liés aux banques, liés à l'industrie, liés à l'agriculture du sud du pays. Mais c'est un pays où une grande partie de la population ne vit pas à sa faim, à des salaires extrêmement bas, où les taux de scolarisation, la plupart des enfants ne font que 4 ans à l'école, pas beaucoup plus. Et donc c'est un pays extrêmement inégal. Et donc une des volontés des officiers du MFA, c'est pas seulement d'implanter une démocratie. À un moment, il y a quelques officiers, notamment des officiers de la marine, où il y a une tradition bien plus à gauche, notamment des gens qui sont proches ou qui se rapprochent ensuite du Parti communiste, qui disent notamment que les politiques doivent être anti-monopolistiques. À l'époque, c'était la grande mode, entre guillemets, de la critique du capitalisme monopolistique d'État. C'est une politique sociale qui aide les plus défavorisés. Et donc, le développement pour ces militaires, c'est il faut que le Portugal soit un pays où les Portugais puissent vivre dignement et un pays où on n'ait plus besoin d'émigrer pour pouvoir éduquer dignement ses enfants et avoir une vie digne. Et donc, ça va être une des trois promesses du MFA, c'est le développement. C'est faire que le Portugal soit, ne soit plus le pays inégalitaire. Et donc ça va se voir pendant la Révolution, parce que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir à la fois des mouvements populaires, et ces mouvements populaires vont soutenir l'aile la plus à gauche du MFA, et notamment en mars 75, il va y avoir une association des banques.
Tout à fait.
Des industries, d'une partie des industries.
Ça fait plaisir.
Et donc, il y a différentes façons de les interpréter aussi, ces associations. Mais, et donc, il y aura cette idée, et comme je vous le disais tout à l'heure, dans la Constitution de 76, il y a cette idée que le Portugal est en transition vers le socialisme. Et donc, à cette époque, on conçoit le développement comme fortement lié au socialisme. Plus tard, ça ne va pas être le cas. Hein, le Portugal n'est pas actuellement un pays socialiste.
Loin s'en faut.
Ou à un moment, il y a dans la Constitution, il y a indiqué que le pays sera le Portugal sera un pays sans classe. Ce n'est pas le cas. Et le développement ensuite va être très intimement lié à l'entrée dans la CE, qui aura lieu en 1986.
Et l'Union européenne ensuite.
C'est ça.
Voilà. Patrick, as-tu une question à Victor ?
Non, pas de question.
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut parler des attaques anticommunistes lorsqu'il y a eu la réforme agraire ? Ça, c'est un point très important. C'est un chapitre très important de ton livre. Pour montrer, au point de vue économique, comment ça a été dur d'obtenir ce fameux dé de développement.
Alors, les violences anticommunistes, elles ont lieu à partir de juillet 1975. Et qu'est-ce
l'été
que c'est
chaud.
C'est l'été chaud. C'est-à-dire que dans le centre et le nord du pays, pour être très schématique, le Portugal peut être divisé en deux, qui est entre un centre et un nord du pays, qui est une région de petite exploitation rurale, très petite, où les gens, il y a des petits paysans qui travaillent des petits lopins de terre en famille, avec les enfants qui ont 6 ans, avec l'épouse, etc., qui passent leur vie à travailler, mais pour gagner quasiment rien, mais qui sont très attachés à leur terre, et où l'Église catholique a une forte présence très étroite, donc des régions plutôt conservatrices, et un sud, donc le Tage pouvant être une des frontières, c'est un peu plus compliqué que ça, avec le Ribatejo et l'Alentejo, où là vous avez des grandes exploitations rurales, où vous avez un propriétaire qui emploie une pléthore de journaliers qui n'ont que, des prolétaires, qui n'ont que leurs bras et leurs enfants pour survivre, et qui gagnent très peu, qui pendant une partie de l'année n'ont pas de travail, donc la partie la plus misérable. Et dans le sud du pays, donc il y a ces occupations de terres, par les prolétaires. Et dans le nord du pays, non. Dans le nord du pays, on craint. Les gens sont très attachés à leur lopin de terre. Et donc, dans ces régions rurales, de façon plus ou moins spontanée, parfois motivée par l'Église catholique la plus conservatrice.
Et par des rumeurs infondées.
Exactement. Motivée aussi par les groupes d'extrême droite. Mmh. L'extrême droite qui n'a pas complètement disparu et qui s'est notamment reformée en Espagne, puisqu'il y a l'Espagne franquiste à côté, vont s'attaquer au siège des partis communistes. Très souvent, c'est un peu le même scénario. Vous avez une foule qui s'agglomère devant le siège du Parti communiste ou d'autres mouvements, mais souvent le Parti communiste, et qui vont obliger les communistes qui se barricadent à l'intérieur pour se protéger à partir et qui mettent le feu aux papiers, aux documents, une sorte de purification par le feu, une sorte d'autodafé. Et il y a eu des cas où il y a eu des morts ou des blessés. Et en fait, c'est à la fois une crainte à la réforme agraire, qui a lieu, mais qui a lieu surtout après, en l'occurrence. Mais surtout, une des choses que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure, c'est que le 25 avril 1975, il y a des élections, qui sont les élections de l'Assemblée constituante, où 92% de la population prend part, hommes et femmes, et le MFA, en fait, il y avait promis des élections dans le délai d'un an, et elles ont lieu un an après. Donc ils respectent ça. Mais le MFA, une partie du MFA, notamment la partie la plus à gauche du MFA, a un peu peur de ces élections. En fait, si on veut faire un parallèle avec l'histoire de France, c'est un peu ce qui se passe en 1848 en France. Il y a la République à partir de février 1848, avec une tonalité très à gauche, avec les socialistes notamment, Louis Blanc et d'autres. Il y a des élections en mai, et qui est-ce qui vote ? C'est la paysannerie française, plutôt conservatrice. Et donc ce que craignent ces officiers du MFA et les partis les plus à gauche, comme le Parti communiste et d'autres, c'est que si on donne la parole à la population, une grande partie de la population vivant encore dans les campagnes, où les notables n'ont pas tous disparu, où il y a toujours les curés, il n'y a pas eu d'épuration des curés, c'est toujours les mêmes qui pendant 40 ans ont dit que le communisme était le plus grand des mâles, etc., etc. Ce que craignent une partie des militaires et du Parti communiste, c'est que sorte de ces élections une chambre plutôt conservatrice. Même si les partis les plus à droite ont été interdits. Mmh. Et donc, le parti le plus à droite, c'est le CDS, le Centre démocratique et social, une sorte de parti démocrate chrétien. Et donc, ce que le MFA va faire, c'est OK, on fait des élections, mais ces élections n'ont que pour rôle d'écrire une constitution. Et le gouvernement, ensuite, sa coloration, les membres de ce gouvernement, ne doivent pas dépendre de l'Assemblée. Donc en fait, ils vont essayer de réduire au possible le pouvoir et l'influence de ces élections et de ces assemblées pour que la légitimité révolutionnaire, c'est-à-dire que nous, on a fait la révolution, on a libéré le peuple, ne soit pas entravée par une légitimité électorale. Le 25 avril 1975, donc 92%, donc on voit que la population veut participer, même si une partie du MFA avait dit « Ah, ne votez peut-être pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, etc. » Le Parti communiste aussi incite les gens qui ont des doutes à ne pas les voter. Mais la population veut voter, il y a très peu d'abstention, il y a très peu de votes blancs. Et le parti qui arrive assez largement en tête, c'est le Parti socialiste de Mario Suárez, qui a un discours à la fois très à gauche, comme à l'époque que François Mitterrand avait en France. Hein, on est à l'époque où Mitterrand dit qui n'est pas anticapitaliste n'est pas socialiste, etc., etc. On est à l'époque de l'union de la gauche. Donc un parti socialiste qui a un discours de rupture avec le capitalisme, mais dont une partie de l'électorat sait bien qu'il est à la limite plus modéré que ce qu'il prétend. Donc il arrive en tête relativement largement. Le deuxième parti, avec un peu plus de 20%, c'est le PPD, le Parti Populaire Démocratique, qui se dit aussi socialiste. Quasiment tout le monde se dit socialiste à l'époque, mais qui est, on va dire, le pays du centre, le parti du centre ou de centre droit. Et le parti dont on pensait qu'il était le mieux organisé, parce qu'en fait, c'était le parti le plus ancien, créé en 1921, le Parti communiste. Le parti qui était auréolé à l'époque d'une longue lutte de la résistance, plusieurs siècles, de 306 ans, si je me souviens bien, d'années de prison que tous les membres du comité central avaient passé donc en prison, avec une personnalité, son secrétaire général, Alvaro Cunhal, qui était une personnalité charismatique, respectée par tous, et qui, après le 25 avril, était le principal parti qui avait déjà une organisation, et qui avait réussi à avoir une implantation dans les grandes villes, dans le sud, dont on pensait donc qu'il avait beaucoup plus de poids, en fait, n'a que 12,5%. On pensait qu'il aurait probablement plus. Et donc, en fait, ce qui va se passer, et je vous passe les détails, c'est que le Parti Socialiste, en juillet 1975, va quitter le gouvernement à cause d'une affaire liée à un journal, le journal La Republica. Exactement. En disant, ce journal qui a cessé de paraître parce qu'il a été occupé par les ouvriers. En fait, et c'était pas le cas, mais bon, Mario Suárez va dire, c'est une tentative du Parti communiste de noyauter, d'empêcher la liberté d'expression, le pluralisme.
Il y a aussi donc, l'affaire de la radio catholique.
Exactement. Oui, voilà. Et donc, le Parti Socialiste va alimenter un discours qui est le Parti communiste essaye de noyauter méthodiquement le pouvoir. Il est rentré dans le gouvernement, il est rentré dans les municipalités, il rentre dans les entreprises qui ont été nationalisées. Il essaye de s'accaparer des médias. Et ça va provoquer, quelques jours après la démission de tous les ministres socialistes du gouvernement, cette flambée de violence anticommuniste. Une partie de la population du nord du pays dit... On a voté le 25 mai 75 et on a voté majoritairement pour le PS et pour le PPD.
Et pas pour les communistes.
Et pas pour les communistes. Et donc, ils disent, le gouvernement, et il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de PPD, il n'y a plus que des communistes ou des militaires du MFA. Et donc,
on nous a volé notre élection.
On a volé notre élection. Et donc,
ça vous rappelle quelque chose ?
C'est un peu sur ça. Et... Ce qui va se passer, c'est que le Portugal, en juillet, août 75, beaucoup vont penser qu'il est à l'orée d'une guerre civile.
Oui.
Une sorte de conflit entre le centre et le nord conservateur. Lisbonne, la grande banlieue de Lisbonne, le sud, plutôt lié au Parti communiste ou au mouvement d'extrême gauche. Certains commencent à s'armer. Il y a notamment des mouvements d'extrême gauche qui réussissent à récupérer des armes de l'armée. Il y a notamment, peut-être que c'est dans les détails, mais les SUV au sein de l'armée, des mouvements qui disent qu'il faut combattre la bourgeoisie, qu'il faut défendre la révolution, etc. Mmh. Donc, à partir de juillet, beaucoup pensent que le Portugal va devenir un...
Cuba ou
une guerre civile, en fait.
Comme c'est, l'Angola, qui commence.
Exactement, comme l'Angola qui sera un peu plus tard. Ouais.
Mmh. Voilà. Donc, le développement, ça a été compliqué.
La démocratisation et le développement, ça a été compliqué. Et effectivement, toutes ces promesses de 75-76 de nationalisation, de autogestion, de contrôle ouvrier, de réforme agraire, En fait, ce qui est fascinant avec la révolution portugaise, c'est que c'est la dernière révolution et la dernière remise en cause radicale du capitalisme et de la propriété privée en Europe occidentale.
Ah, merci de le dire.
Non, mais après, c'est... Merci de le dire, mais c'est la dernière et ça date de 50 ans. Donc, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein.
Je le vois à moitié plein.
Ouais. Et pour certains, au contraire, alors là, je vais le moitié vide. Pour certains, le Portugal a provoqué un très important engouement au sein de la gauche et l'extrême gauche européenne. Beaucoup de personnes sont allées au Portugal voir cette révolution. Mmh. C'est pas tous les jours qu'on peut voir une révolution
en cours, comme Sartre et Beauvoir.
Exactement, Sartre et Beauvoir y vont, mais pour certains, si la révolution a échoué au Portugal, ça veut peut-être dire qu'elle va échouer dans le reste de l'Europe, en fait. Et pour certains, le Portugal a été une sorte de jalon de perte de croyance en la révolution et dans la possibilité de changer radicalement les structures.
Oui.
Donc, on peut voir le verre à moitié vide comme on peut voir à moitié plein.
Alors, Victor, puisque tu dois partir, j'aimerais qu'on démarre le troisième D, qui est décolonisation. Alors, ce que j'ai apprécié dans ton livre, puisque je suis une enfant de la décolonisation, c'est de voir toutes ces figures de la décolonisation toutes rassemblées. De Samora Machel à Nelson Mandela, en passant par Savimbi, tout le monde, Améka Cabral, tout le monde est dedans. Et à sa place, tu as passé un temps fou pour sur les archives.
Oui.
Mais le livre, tu as mis combien de temps pour
Après, la révolution, quand on est historien du Portugal, j'avais déjà un peu travaillé sur la révolution depuis longtemps. Et donc je lisais ce qui se faisait sur le Portugal. Et après, effectivement, l'année précédente, je faisais pas mal en archives. Alors, le problème de l'histoire contemporaine, c'est qu'il y a trop d'archives. Donc à un moment, il faut choisir. Mmh. Donc une des choses que j'ai aussi voulu faire, parce que je voulais écrire en français pour un public français, principalement, je suis allé notamment consulter les archives à la Courneuve, qui sont les archives diplomatiques françaises.
Comment tout à fait.
En France, ou du moins la diplomatie française,
a eu une perception
qui était bien connectée en règle générale, voyez la Révolution. J'ai aussi consulté, ça a été plus dur à obtenir, les archives de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République de
l'époque. Mais pourtant, au bout de 25 ans, on a accès.
Alors oui, mais pas toutes, parce qu'il y a la défense de la sûreté de l'État, de la vie privée, etc. Et en fait, moi, ça faisait 10 ans que je demandais les archives de Giscard d'Estaing, qui m'avait été refusé, et donc j'ai redemandé, et je les ai obtenus à la toute fin, en fait, du processus de collecte d'archives. Et j'ai aussi un peu travaillé au Portugal dans différentes archives. Mais pour revenir à la décolonisation, il y a un slogan au Portugal qui est « Le 25 avril est né en Afrique ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la dictature est tombée de ces guerres coloniales. C'est-à-dire que les militaires qui ont à la fois fait les guerres coloniales, une partie d'entre eux, donc je l'ai dit tout à l'heure, en ont eu assez, on considérait que c'était une ineptie, que c'était archaïque, que c'était une guerre qu'on ne pouvait pas gagner, qui pourrait durer des années, des années, des années. On est à une époque où la plus grande armée du monde, entre guillemets, les États-Unis n'arrivent pas à gagner au Vietnam et vont se désinvestir du Vietnam, où la France n'a pas réussi à gagner en Algérie, en fait. À la fin, ces types de guerres, tous les cas où il y a eu des conflits en Afrique, les colonisateurs ont dû partir.
Oui.
Plus ou moins.
La queue entre les jambes.
Exactement. Et donc, une partie des militaires s'en rendent compte, en fait. Une partie des militaires disent, nous, okay, on a fait la guerre pendant des années pour que vous soyez, les politiques soient maintenant en capacité de négocier. Mmh. Il y avait des choses à négocier, notamment la présence d'environ 800 000 Portugais blancs en Afrique. Mmh. Peut-être qu'il faut négocier le fait qu'ils puissent rester, comment ils restent, etc., etc. Et ils voient bien qu'en fait, la dictature, les dirigeants de la dictature sont complètement obtus, et eux sont imbus de leur propre mythe, qui est nous... Le mythe que j'explique un peu dans le bouquin, et qui est très important, c'est le mythe lusotropicaliste. C'est-à-dire que les Portugais, à partir des années 50, en reprenant les travaux d'un sociologue brésilien, Gilberto Freire, qu'il avait développé dans les années 30 à partir du cas du Brésil, Gilberto Freire avait dit, et là, c'est pas moi qui dit ça, c'est Gilberto Freire, parce que ce n'est pas la réalité, les Portugais, à la différence des Anglais, des Néerlandais, des Français, des Belges, les Portugais, par essence, ne sont pas racistes. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et que les Portugais, sous les tropiques, d'où le terme de lusotropicalisme, se sont mélangés, se sont métissés. Et c'est l'idée que le Brésil, là aussi, on peut vraiment discuter cette idée, que le Brésil est une démocratie raciale. À la différence, et notamment le point de distinction de la comparaison implicite que fait Frère, c'est les États-Unis et le Brésil. Pourquoi aux États-Unis, vous avez la ségrégation et pourquoi au Brésil, vous n'avez pas de ségrégation dans la loi? Et qu'il y a cette idée que c'est issu d'un métissage, Pelé, Carmen Miranda, etc. Alors que, bon, il y a la ségrégation sociale, politique au économique. Brésil. Et donc les Portugais, dans les 50-60, ils vont récupérer ça. Parce que ça leur permet de dire, nous on est différents. Nous on n'a pas été racistes. Nous on n'a pas été là-bas pour exploiter. Nous on n'avait pas des grandes industries textiles ou sidérurgie. On a été par esprit d'évangélisation, par volonté de découvrir les autres, de donner des mondes au monde. Bon, un ensemble d'inepties qui sont répétées. Et d'inepties qui sont encore fortement ancrées au Portugal. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et donc, cette idée de lusotropicalisme, c'est nous, on a été différents. Nous, on est présents en Afrique depuis 500 ans, ce qui est en grande partie faux. Et nous, on s'est métissés, on s'est mélangés. Et donc, il n'y a pas d'un côté des Portugais blancs, de l'autre côté des Africains colonisés. Il n'y a que des Portugais de différentes couleurs. Et j'en parle un peu, et ça peut paraître futile, mais ça ne l'est pas. Là, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, comment le sport peut être instrumentalisé politiquement. Dans les années 60, le Portugal de Salazar a une chance incroyable, et il n'a rien fait pour, je dirais, c'est qu'il y a une génération de footballeurs qui viennent notamment des colonies du Mozambique. C'est le cas d'Eusebio, qui est un des grandes stars du football, qui joue au Benfica Lisbonne et qui est joueur de la sélection nationale. Le Benfica, en 61-62, a une équipe déjà pluriraciale, avec plusieurs joueurs noirs, métis, blancs. Et le Benfica Lisbonne gagne, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais la Ligue des Champions en 61-62. Le Portugal, qui était nul en foot avant, participe à la Coupe du Monde de 66, arrive troisième avec un super championnat d'Eusebio. Et la dictature va instrumentaliser jusqu'à la Ligue. Emmanuel Macron n'est pas le premier avec les Jeux Olympiques. C'est bon résultat. Et pour dire, Eusebio, qui est au Panthéon, à Lisbonne actuellement, depuis sa mort, va le montrer. Voilà, Eusebio, qui est né au Mozambique, qui est un joueur issu de métissage, c'est le Portugal pluricontinental. Benfica, la section portugaise, c'est une équipe avec des gens de différentes couleurs, de différentes origines, mais qui sont tous portugais. Et ça, évidemment, ça touche Hobsbawm, qui est un historien marxiste qui a beaucoup travaillé sur le XXe siècle, sur le nationalisme. Il le dit bien à un moment, pour les classes populaires, et notamment les classes populaires masculines, ce qui fonctionne le plus, les gens ne lisent pas Ernest Renan, les gens ne lisent pas...
François Fanon,
mais ils regardent du football. Et tous les discours sur le football sont assez performatifs. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une partie de la dictature était enfermée dans cette croyance qui était que le Portugal était différent et qu'on pourrait rester encore longtemps en Afrique. Et le lustropicalisme, évidemment, niait toute la violence coloniale. La traite négrière, refusée. Mais là, beaucoup de Portugais de nos jours ont du mal, il y a encore des débats sur ça. Pour qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des gens qui soient pas qui soient en désaccord, et pas toujours le cas. Le Portugal a utilisé le napalm. Portugal a fait des massacres de populations civiles, etc. Et c'était toujours cette idée d'une colonisation acceptée et bénévole, et bienveillante. Et donc, une partie des militaires a dit non. Il faut arrêter ces guerres et il faut négocier. Et donc, c'est pour ça que cette idée que le 25 avril est né en Afrique, c'est que c'est parce qu'il y a eu ces mouvements de libération. Donc, vous avez parlé d'Anica Cabral, le leader du PAIGC, qui a assassiné en janvier 73 en Angola. Donc, ça va être la source d'autres problèmes.
Oui.
Mais il y a trois grands mouvements de libération, le MPLA, qui est actuellement au pouvoir depuis 75, qui est plutôt marxiste, mais aussi l'UNITA, qui
le Chaudas, Savimbi.
Avec Savimbi, le FNLA, avec Odene Roberto. Et au Mozambique, il y a, vous avez parlé de Samora Machel, donc le Frelimo. Et donc, ces luttes de ces mouvements ont contraint l'armée portugaise à mettre fin à la dictature, pour se libérer eux-mêmes de la colonisation, en fait. Pour que le Portugal se libère de la colonisation et que les peuples colonisés se libèrent eux-mêmes.
Voilà. Nous allons faire une pause et nous allons donner une conclusion sur le Portugal d'aujourd'hui par rapport à la révolution des œillets. Merci Jean-Mi et Kandang.
Soldadinho de chumbo não era como era o soldadinho, um menino lindo que nasceu num roseiral. O menino lindo não nasceu para fazer mal. Menino cresceu, já foi à escola de sacola. Já sabe ler, sabe contar. Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar. Vai gado guardar, já vai lavrar e matar, mas o soldadinho percebeu.
percebeu que esses senhores mandavam a guerra contra os seus irmãos de cor. Soldadinho lindo, és também trabalhador. Viras a espingarda contra o teu explorador. Um e dois e três, era uma vez um soldadinho de chumbo, não era como era o soldadinho. Dancemos, meninos, a roda no roseiral, que os nossos soldados libertaram Portugal. Soldadinho lindo, és o rei da nossa terra. Vais lutar agora para acabar com essa guerra. Soldadinho lindo, és o rei do nosso povo e contigo vamos construir um mundo.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans le dernier quart d'heure avec Victor Pereira pour son excellent livre « C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976 » aux éditions du Détour. Alors, pourquoi cette musique, Victor ?
Parce que cette musique, à la fois, elle a été composée et chantée par José Mário Branco, qui est un chanteur portugais qui s'est exilé en France en 64, qui était au Parti communiste puis appartenu des mouvements maoïstes et qui en France a considéré, comme d'autres, que la musique et la chanson est une arme et que avec ses chansons, avec ses textes, il allait dans les bidonvilles, faisait les fêtes d'émigrés où il y avait des émigrés. En mai 68, il a pas mal tourné dans différentes usines occupées et pour essayer de politiser ses compatriotes portugais. Et cette chanson, c'est sur la guerre coloniale, c'est la vie d'un soldat qui doit partir combattre dans les guerres coloniales. Et donc, c'est une façon de montrer que les soldats sont des victimes, les inciter à déserter. Et à cette époque-là, entre 61 et 74, il y a eu plus de 100 000 jeunes portugais qui sont venus en France pour ne pas faire leur service militaire. En 71, 20% des jeunes portugais ne faisaient pas leur service militaire. Et donc, il y a eu un refus massif de jeunes qui considéraient que ces guerres, c'était pas juste, qui préféraient juste partir en France travailler, avoir une meilleure vie, même si cela impliquait qu'ils ne puissent peut-être jamais revenir au Portugal, voir leur famille, voir leurs proches, voir leur pays. Et donc, c'est parce qu'à la fois, elle a été composée en France et qu'elle montre aussi ce refus croissant de ces guerres coloniales.
Bien. Alors, pour ceux qui ne veulent pas lire le livre ou qui ne peuvent pas lire le livre, il y a un excellent film de Maria de Medeiros, Capitaine d'Avril. Tu peux en dire un mot ?
Alors, c'est un film qui est sorti en 99-2000 et qui a eu à l'époque un certain succès.
Oui, puisqu'il était dans la section Un certain regard de Cannes.
Donc en 2000. Et qui même, là, on a fêté les 50 ans du 25 avril, soit le film qui a le plus été diffusé dans des cinémas au moment de commémoration, et qui représente la journée du 25 avril.
Voilà.
Alors, c'est pas un documentaire. Elle s'est beaucoup documentée, elle a rencontré des capitaines d'avril, elle leur a parlé, et elle a repris quelques textes qui existaient déjà. Mm-hmm. Elle se centre sur un des militaires capitaines qui est Sergei Lumaille, qui est pas du tout celui qui organise le 25 avril. Celui qui organise le 25 avril, c'est Othello, qui est celui qui va partir de Sainte-Hélène, qui est un peu au nord de Lisbonne, et qui va avoir comme mission de prendre le contrôle de la place en plein cœur de Lisbonne, qui est la place du commerce, où il y a les différents ministères, et qui ensuite, qui autour de midi, reçoit l'ordre d'aller dans une autre petite place, toute petite, escarpée, où il y a le siège de la gendarmerie portugaise, où s'est réfugié le président du Conseil, donc Marcelo Caetano, et c'est lui qui va essayer d'obtenir la reddition, et qui va l'obtenir, la reddition de Marcelo Caetano. Et donc c'est centré sur lui, et alors après, évidemment, c'est une fiction, donc elle y rajoute une histoire d'amour, elle y rajoute d'autres personnages, des événements qui n'ont pas vraiment existé, ou des événements qui ont eu lieu un peu après, mais qui permet de restituer cette journée, à la fois le rôle des militaires, mais aussi cet engouement populaire, et cet appui populaire qui est spontané.
Alors, le Portugal aujourd'hui, 50 ans après.
Le Portugal, alors, le Portugal aujourd'hui, c'est pas des, à rire, c'est une vaste question, mais en plus aujourd'hui, il y a, ces derniers jours, il y a des énormes incendies dans le nord du Portugal.
Ah, tout à fait.
Qui ont provoqué plusieurs morts. Et c'est pour les Portugais aussi une récurrence. Il y a 7 ans, il y avait eu d'énormes morts. Il y avait eu une route qui avait été, et un village qui avait été enflammé et avec plusieurs dizaines de morts. Donc là, en ce moment, ça va pas très bien. Mais même, j'imagine que la question, c'est politiquement. Là, le 25 avril 2024, c'est donc au moment des 50 ans du 25 avril, il y avait 50 députés d'extrême droite à l'Assemblée. Et ça a beaucoup choqué les Portugais. Il y a eu des énormes défilés. Tous les 25 avril, les Portugais, une partie des Portugais défilent. Mmh. C'est assez ritualisé. Et là, il y a eu sûrement le record de nombre qui sont sortis dans la rue. Non seulement parce que c'était les 50 ans, mais parce que depuis quelques semaines, en fait, il y a eu des élections le 10 mars 2024. Et lors de ces élections du 10 mars 2024, l'extrême droite a eu 18% et donc 50 députés. Et ça, ça a été un véritable choc au Portugal, parce que pendant longtemps, le Portugal était vu et se considérait comme un pays différent d'autres pays, dans le sens où il n'y avait pas d'extrême droite. Mmh. Si vous regardiez la carte de l'Europe, on sait ce que représente l'extrême droite en France, en Italie, en Hongrie, en Grande-Bretagne, en Espagne avec Vox. Et le Portugal était un des rares pays où l'extrême droite, il y avait des partis d'extrême droite.
Il n'y avait pas de représentation à l'Assemblée nationale.
Il n'y avait pas de représentation. Il y avait des idées racistes, des idées tout ça, hein, mais il n'y avait pas. Et en 2019, il y a un mouvement qui s'est créé, qui s'appelle Chega, qui veut dire « ça suffit », avec son leader qui est André Ventura, qui est à la fois quelqu'un qui a fait des études de droit, qui était enseignant de droit, qui était plutôt de gauche, ou du moins il a écrit des trucs plutôt de gauche quand il était un peu plus jeune, et qui maintenant incarne ce populisme d'extrême droite, et qui donc a été créé en 2019, a eu un député en 2019. Donc déjà en 2019, ça avait été un premier choc. Depuis 1975, pour la première fois, il y avait un député d'extrême droite. Qui a un rapport ambivalent à Salazar. Il ne se présente pas comme un successeur de Salazar. Il est comme une partie de l'extrême droite européenne. Il est plus prudent et joue souvent du sous-texte. On ne dit pas les choses directement, mais on fait du sous-texte. En 2022, il y a eu des élections où là, l'extrême droite a obtenu 12 députés. Donc là, c'était déjà un saut. On est passé de un député, seulement 1%, au Portugal, à la proportionnelle. Donc ça veut dire qu'avec 1% à Lisbonne, vous arrivez à avoir un député. On est passé à 12. Et là, dernières élections, qui sont eu lieu dans un contexte assez particulier. Pourquoi ? Parce qu'en novembre 2023... Donc en 2022, il y a eu des élections et le Parti Socialiste a obtenu la majorité absolue. C'est-à-dire que en 2015, alors ça peut, alors, si on veut parler de leçons d'histoire et tout pour faire des parallèles avec la France, en 2015, il y a eu des élections. La droite était au pouvoir depuis 2011 et en 2015, il y a eu des élections. La droite est arrivée en tête, mais sans majorité absolue. Mm-hmm. Le PS est arrivé derrière et le président de la République a demandé au Premier ministre précédent, qui était le leader de la droite, de former un gouvernement, alors qu'il n'avait pas la majorité au Parlement. Et il n'a pas obtenu une motion de confiance. Et ce qui s'est passé, ce que personne n'attendait, c'est que le PS, qui était le deuxième parti, a obtenu l'appui parlementaire du Parti communiste, et du bloc de gauche, qui est un parti, pour faire simple, où différents mouvements d'extrême gauche se sont liés en 99. Et pourquoi c'est inattendu ? Parce que depuis 75, vous aviez une tension, une division extrêmement forte entre le PS et le PC.
Oui.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PS avait alimenté un certain anticommunisme, etc. Le PC considérait que le PS avait en partie trahi la révolution, etc. Et là, en 2015, face à l'éventualité d'un gouvernement de droite, le PC et le bloc de gauche ont dit nous, on est prêts à soutenir un gouvernement PS sans participer au gouvernement, sans avoir de ministre. Mais on vous soutient, donc on dit un peu quelles étaient les lignes rouges, qu'est-ce qu'ils voulaient, notamment que les droits qui avaient été perdus entre 2011 et 2015 soient progressivement rétablis, que les salaires augmentent, etc., etc., qu'il y ait moins de précarité et tout. Et donc entre 2015 et 2019, il y a eu au Portugal ce que les Portugais ont appelé, au début c'était quelque chose pour critiquer, c'était la droite qui avait trouvé le mot, gelingonça, qui veut dire la brinque-ballante, le truc, le bidule, qui ne fonctionne pas très bien, mais qui a fonctionné pendant 4 ans. Et le Portugal a souvent été un exemple parce que parti socialiste au pouvoir, appuyé par l'extrême gauche, qui dit qu'il faut sortir d'une politique austéritaire, mais tout en ayant des comptes publics équilibrés. Et le Portugal a souvent été considéré un exemple à cette époque-là, parce que c'est un pays où les déficits se sont réduits. Et tant et si bien que le ministre des Finances portugais a été considéré comme le Ronaldo des finances publiques et à un moment est à la tête de l'Eurogroupe pour les finances et que António Costa, Premier ministre, est devenu le président du Conseil européen. Mais donc en 2015-2019, il y a un gouvernement de gauche. Entre 2019 et 2022, là, il y a eu un accord préélectoral entre les différents groupes qui n'a pas tenu. Et en 2022, le Parti socialiste a obtenu la majorité absolue.
Bien.
Sauf qu'il y a eu des affaires de corruption, avérées ou présumées, et Costa, le Premier ministre, a démissionné. Le président de la République n'était pas obligé de le faire. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée. Il aurait pu dire, ok, le Premier ministre part, on nomme un autre Premier ministre issu du Parti socialiste parce que c'est la majorité. Non, le président de la République a décidé de dissoudre. Comme on le sait, c'est pas toujours une bonne idée. Et donc, dans ce climat d'affairisme, de scandale, ça a été le moteur pour l'extrême droite.
Voilà.
Et donc maintenant, on a une situation assez compliquée aussi au Portugal, qui est que la droite gouverne, mais est très loin d'avoir une majorité absolue. Très très loin. Le Parti socialiste a juste 2 députés de moins, mais a préféré pour l'instant laisser la patate chaude. Et il y a donc 50 députés d'extrême droite. Et comme en France, on ne sait pas très bien si le gouvernement, bon, en France on n'a pas de gouvernement, mais au Portugal, si le gouvernement va pouvoir faire passer son budget. Si le PS va voter le budget de la droite, si il va imposer des conditions, est-ce que la droite va... Donc là, c'est en cours. Et
affaire
pas impossible qu'il y ait de nouveau une dissolution parce qu'il n'y a pas de budget qui est voté.
Victor, merci. On
c'est
va te libérer.
Merci beaucoup.
Alors, je rappelle que tu parles de la crise angolaise. Pour ceux qui veulent lire... sur le manuel de référence pour moi, c'est la traduction anglaise du rapport All President Men de Global Witness, l'ONG britannique, qui s'appelle Les Affaires sous la guerre, aux éditions Agone, dans la collection Les Dossiers Noirs numéro 18, qui date de 2003, mais qui est toujours d'actualité. Voilà, Victor, bon voyage.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
Merci, Victor.
Alors, merci. Nous allons donner la parole à Ken Dong.
Merci Mariama. Donc là, comme il nous reste un peu de temps avant la fin de l'émission, on avait décidé de faire quelques annonces sur des activités qu'on organise ici au groupe Louise Michel.
Tout à fait.
Donc ce dimanche 22 septembre à 16h, si vous passez à Publico, au 145 rue Amelot.
Métro République, voilà. Oberkampf ou Fille du Calvaire.
Voilà, proche de la place de la République donc. On organise une projection d'un film, suivi d'une discussion. Le film, c'est « Paroles sous occupation » de Romuald Huimin, qui a été tourné en 2014. Donc Romuald Huimin, c'est quelqu'un qui, à partir des années 2010, il a fait plusieurs voyages en Cisjordanie. Et pendant tous ces voyages, il a recueilli avec sa caméra les paroles de différentes personnes qu'il a rencontrées au détour des routes qu'il a empruntées. Et donc, vous avez un recueil de témoignages de personnes qui racontent un peu les difficultés qu'elles subissent à vivre en territoire occupé et colonisé, quoi. Donc venez à Publico, hein, ce sera à 16h le dimanche 22 septembre. Le réalisateur sera là, hein, pour la discussion, débat qui va suivre la projection du film.
Je ferai du café, pas trop mauvais, j'espère.
Et vous aurez du café, du très bon café de Mariama.
Publico est ouvert à partir de 13h, donc vous pouvez venir en avance, voir les livres, parce que Publico est ouvert du mardi au dimanche. Le dimanche, ce sont les groupes de la région parisienne qui animent Publico. Donc dimanche prochain, c'est le groupe Louise Michel qui s'occupe d'animer Publico, d'où l'ouverture à 13h. Donc on vous donnera des conseils de lecture et la projection débat de rencontres sous occupation.
Paroles sous occupation.
Paroles sous occupation.
Voilà.
Voilà. Et surtout, la semaine suivante, nous avons une autre co-animation avec l'animatrice d'une autre émission, Christiane. Nous recevons Shane Morris, Guenella Ricordo et... j'ai oublié le nom du troisième. Nous avons reçu brique par brique, mur par mur, l'excellent livre pour l'abolitionnisme pénal. Nous les recevons tous les trois à Publico. Ce sera à 16h aussi, le samedi 28. Et le groupe Louise Michel animera avec Christiane la rencontre, débat. Donc ce sera à Publico, toujours 145 rue Amelot, dans le 11e, métro République, Fille du Calvaire ou Oberkampf. Et il y aura aussi du café, fait par moi. J'y veillerai. Donc, est-ce que tu as d'autres...
Non, bah, c'est déjà... Si vous venez dimanche, hein, il y aura des choses intéressantes à Publico. Donc, voilà, et pour le reste, ben, on verra après.
D'accord. Patrick, as-tu une conclusion sur l'émission? Est-ce que ça t'a ouvert
Ouais, la question que je me posais, c'est donc... notre invité est parti, mais... Enfin, c'est la question, on peut se la poser nous-mêmes, en fait, plutôt que la poser aux invités. C'est 50 ans, donc il y a cette dernière révolution ou tentative de transformation d'une société capitaliste en Europe occidentale, comme ça a été dit. Et la question, c'est quelles leçons on en tire, en fait, de cette tentative-là pour aujourd'hui. On se posait la question individuellement et sans doute collectivement de qu'est-ce que ça peut nous donner comme idée pour justement. Prendre parfois, tirer de cet héritage-là des éléments pour nous. Quoi. Ouais.
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le livre de Victor Pereira, on n'a pas eu le temps de parler de tout le livre parce qu'il doit partir prendre son avion. C'est Le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976, aux éditions du Deux Tours. Il donne justement les clés en conclusion. Il dit les œillets sont fanés. Mais bon, il donne des clés pour comprendre ce qu'il faut en tirer des 50 ans. Et qu'il ait pris le titre de la chanson « C'est le peuple qui commande », c'est déjà la première clé. C'est le peuple qui commande. Je crois que là-dessus, on sera tous d'accord. Hein, Kendong ?
Oui, oui, bah oui. Mais
voilà.
Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein,
et cette révolution, elle est extraordinaire. Parce que, justement, on a des capitaines qui disent au peuple « Restez chez vous », et le peuple sort, et il participe à la révolution, et devient même l'acteur principal de cette révolution. Il se prend en charge. Il comprend qu'il a une opportunité unique de changer les choses. Et les choses ont changé. Alors, ce que nous n'avons pas eu le temps de décrire avec Victor, il le dit très bien, c'est qu'il y a... Les mœurs ne sont pas allées aussi vite que la révolution. C'est-à-dire que les droits des homosexuels et les droits des femmes ont mis plus de temps. Par exemple, les femmes ont demandé tout de suite le droit à l'avortement, elles ont fait des manifestations contre le patriarcat, et elles se sont fait boxer et tabasser par les hommes qui pourtant étaient là pour la révolution. Les homosexuels, leurs revendications sont restées lettres mortes. Donc ça n'a pas été rose tous les jours pour certaines catégories. Mais ils se sont accrochés et ils ont obtenu que la société change, parce que c'est le peuple qui commande. Voilà. Donc, merci. Alors, nous allons remercier Jean-Michel pour la technique. Kendong pour avoir organisé la rencontre débat avec
Bon, elle n'a pas encore eu lieu, hein, donc venez le dimanche 22 septembre.
Oui, mais c'est toi qui t'es occupé d'organiser pour le groupe Louise Michel. On t'en remercie infiniment. Patrick, pour m'avoir aidé à animer l'émission, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
Je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Je voudrais retomber en enfance, au pays des petits bobos, des maladies sans conséquences, qui portent des noms d'oiseaux. Écouter chanter les rougeoles, regarder passer les oreillons, voir les varicelles qui s'envolent et reviennent selon la saison. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Je suis devenu un continent, j'urine mon troisième océan. J'y peux rien si je vous inonde. J'ai quitté les îles de la Sonde. Plutôt que le tropique du cancer, je trouve plus jolie la pleurésie. Dans le crachin du bord de la mer, j'attendrai sagement l'embellie. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne pas rond, un peu d'affection.
d'affection.
Il faut reconnaître qu'au niveau communication, l'homme a fait de sacrés progrès depuis la massue.
Radio Libertaire 89.4.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, paroles, cris, fornication. Foutre interdit à 60 ans ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans pouvoir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
La chanson, qu'est-ce que c'est? Deux volets que l'on ouvre un matin et puis tiens, Mozart est dans la rue. C'est un soir à Bordeaux, d'horrible solitude, un coup de poing dans la gueule, un cognac répandu. La chanson, qu'est-ce que c'est?
une bulle de 3 minutes qui vient tenter sa chance chez un programmateur qui n'écoute que l'intro et qui passe à une autre tout en palpant le cul de ses deux assistantes. La chanson triste ou gaie, c'est toujours une plainte. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La chanson, qu'est-ce que c'est? Quand ça marche, mon pote, 170 milliards pour tes 2 ou 3 notes, sitôt réinvesti dans l'industrie.
Radio Libertaire 89.4 et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors ce soir, nous recevons encore une fois un invité qu'on a déjà eu d'ailleurs il y a quelque temps, le sociologue Emmanuel Beaubaty, auteur d'un essai « Ne suis-je pas une féministe » paru dans la collection Libelle des éditions du Seuil. Le livre pose une question fondamentale et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Qui peut aujourd'hui se réclamer légitimement du féminisme à l'heure où les polémiques font rage autour de l'intersectionnalité, de la question trans, de l'affirmation du primat du biologique ou au contraire de celle de la dissolution des frontières de genre? Alors, Emmanuel, le titre de ton livre, bien sûr, tu ne l'as pas choisi par hasard. À quoi fait-il référence? Ne suis-je pas une féministe?
Alors, ce titre, effectivement, c'est une référence directe à une phrase bien connue dans le monde féministe et dans les études féministes, c'est « Ne suis-je pas une femme ?» qui est une phrase qui a été prononcée pour la première fois par Sojourner Truth, une ex-esclave voilà, noire à la Convention des femmes devant une assemblée de blanches, et qui a été repris ensuite, plus de 130 ans plus tard, par une des théoriciennes du Black Feminism, Bell Hooks, qui en a fait le titre d'un ouvrage bien connu. Et donc, c'est effectivement une référence à cette phrase qui finalement interpelle des féministes, en l'occurrence blanches, sur le droit, voilà, à faire partie de ce combat et à être reconnues aussi comme faisant partie de cette lutte. Donc voilà, je l'ai mobilisé pour aussi décentrer un petit peu le débat, puisque c'est un essai qui porte sur les trans, et pour montrer qu'on retrouve des logiques similaires avec d'autres populations, d'autres contextes, qui ne sont bien sûr pas exclusifs les uns des autres.
Ok. Alors, dans ton bouquin, et d'ailleurs dans la quatrième de couverture, hein, je ne sais pas si c'est toi qui est l'auteur de cette quatrième de couverture, mais tu fais une longue liste de celles et ceux qui sont exclus d'une partie du mouvement féministe. Est-ce que tu peux nous rappeler cette liste? Tu parles des trans, éventuellement des femmes qui portent le voile, d'une assez grande catégorie de personnes.
Oui, en fait, c'est un texte finalement sur les frontières du féminisme, hein, sur qui a le droit ou pas et selon qui d'en faire partie ou non. Et j'ai choisi quelques exemples effectivement de l'histoire féministe contemporaine qui permettent d'aborder ce sujet-là et qui est une liste qui est pas forcément exhaustive, mais dans cette liste on trouve par exemple les lesbiennes, les femmes noires, les femmes musulmanes qui portent le foulard ou encore les travailleuses du sexe. Et à travers ces divers exemples, encore une fois, et ça aurait pu être d'autres exemples, et voilà, c'est pas forcément historiquement exhaustif, mais de populations qui